Les chapitres 10, 11 et 12 de Daniel marquent la fin de ce livre, mais ça fait un tout. Et nous n'allons pas le temps de tout voir ce soir parce que chaque chapitre est tellement riche. En fait, de quoi s'agit-il? C'est une dernière vision avec une introduction, avec un entretien, encore un entretien avec des anges. Il paraît que Daniel, il est tellement habitué. Mais le chapitre 11 est vraiment le cœur de cette dernière vision. C'est la vision où, si vous voulez, il rassemble un peu tout de ce que nous avons vu et il va encore dans plus de détails qu'on a vu jusqu'ici. Et donc, sachant qu'il y a tellement de détails, c'est la prophétie dans la Bible qui a été accomplie peut-être le plus, où on a, à part des prophéties concernant Jésus-Christ, bien sûr, où on a le plus de preuves de ce qui s'est passé et comment les choses se sont arrivées exactement comme Daniel a dit. En fait, nous allons voir donc la semaine prochaine, quand on arrive au cœur de cette prophétie, qu'il y a tellement de précision que les critiques de la Bible disent que c'est pas vrai, c'est trop proche, c'est trop détaillé pour être vrai. Et bien sûr, il se base sur le prétexte que le miraculeux et surtout la voix ou la parole prophétique est impossible. Alors, ils disent que cette prophétie est donc impossible. Mais nous, nous ne partageons pas ce point de vue. Mais plutôt, c'est l'idée que Dieu est le Tout-Puissant et donc il est capable, il est en dehors du temps et d'éternité. Il voit le commencement et la fin. Et justement, la parole prophétique, c'est une des preuves qu'il est Dieu. C'est justement pour cela que la parole prophétique est souvent critiquée par ceux qui ne veulent pas croire. Et ça revient toujours sur les sources de ses croyances, quelle position on va prendre. Mais Dieu, il se justifie toujours à la fin de toute chose en se montrant fidèle. Si vous voulez, la parole prophétique peut être décrite un petit peu comme un défilé militaire, dans le sens que notre temps, notre monde continue, le temps passe un peu comme ce défilé de 14 juillet. Si Dieu, il voit le commencement et la fin, ça lui met, si vous voulez, un petit peu comme s'il était dans un hélicoptère, il voit le commencement et la fin. Nous, qui sommes dans le monde, nous sommes plutôt assis ou debout, quelque part sur le Champs-Élysées. Nous ne voyons pas le commencement ni la fin, mais nous voyons juste ce qui se passe devant nous à chaque instant. Alors, ce que Dieu fait, il dit, ben, voilà ce qui s'est passé au commencement quand vous n'êtes pas là, et voici ce qui se passe à la fin, quand tout va terminer. Et lorsque nous voyons les choses se passer exactement comme il a dit, nous reconnaissons, ah oui, il avait raison. Et bon, c'est pas une très bonne image, mais c'est une image quand même pour nous donner une idée de comment Dieu, qui est en dehors du temps, en éternité, il voit les choses et comment il peut donc nous les dire de façon succincte et prophétique, descriptive, détaillée, afin que nous comprenions quand les choses arrivent. Alors, avec ceci en tête, voyons dans notre chapitre, verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. La première chose, c'est la date qui est importante. C'est la dernière prophétie, et cette fois-ci, nous voyons que c'est écrit chronologiquement, enfin. C'est à la fin de sa vie, c'est à la fin de son livre. Troisième année de Cyrus, qu'est-ce que ça nous apprend pour vous qui étiez là? Donc c'est changement de pouvoir, n'est-ce pas? C'est 3 ans, donc après, que les Perses ont pris le pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Israël? Voilà, le retour en Israël. Et ça s'est passé dans la première année de ce roi, Cyrus. Comme ça a été prophétisé par Ésaïe 45 par exemple. Cette histoire du retour du peuple juif en Israël se trouve notamment en Esdras. Il vient dans un premier temps, après le décret de Cyrus le Grand, sous l'autorité de Zorobabel, chef plutôt militaire, gouverneur, et aussi le souverain sacrificateur Josué. Quand c'était le moment, enfin après 70 ans de captivité, d'exil, est-ce que les Israélites, est-ce qu'ils venaient en masse vers Israël? Est-ce qu'il y avait comme un grand exode vers la terre promise? Non, non, il y avait très peu si on considère toute l'histoire, toute la nation. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les gens gagnaient très bien leur vie en Babylone. Et pourquoi quitter la belle vie en Babylone où tout allait bien et on gagnait beaucoup d'argent pour retourner à un pays dévasté par la guerre où il y a beaucoup d'insécurité? Et c'est pour ça que la grande majorité restait dans la dispersion. C'est la troisième année maintenant. Daniel est au courant de ça. Mais Daniel, il reste à Babylone. Il a peut-être 80 ans maintenant, peut-être même plus. Alors pourquoi est-ce que lui, il n'a pas terminé ses jours en Israël? Peut-être il n'avait pas le choix. Il était quand même employé par le roi. Une autre chose, peut-être il n'avait pas les forces non plus. C'était une longue, dure voyage avec beaucoup de problèmes et périls. Alors Daniel, peut-être il voulait aussi rester à Babylone parce que à Babylone il avait beaucoup d'influence qui pouvait aussi utiliser pour le Seigneur. On ne sait pas toutes ces raisons, mais ce sont des bonnes raisons pour une telle décision qu'il aurait prise de rester sur place. Mais il reçoit quand même cette parole. Et quelle est la parole? Il y a un grand combat. Un grand combat. Et c'est justement ça qui va commencer et dessiner le reste. Un grand combat. Si j'étais à la place de Daniel, 80 plus ans, et le Seigneur me dit, enfin, après tout, il y aura un grand combat. Je serais un petit peu déçu, parce que on aurait pensé, avec tant de misère, avec tant de souffrance, n'est-ce pas mon tour à moi de se reposer, prendre sa retraite? N'est-ce qu'il n'a pas mérité ce repos? Alors, il est intéressant que le Seigneur l'engage encore. Et la leçon que nous pouvons prendre de tout cela au début de ce chapitre, c'est ceci. C'est que nous ne nous appartenons pas si nous nous appartenons au Seigneur. Puisqu'il est le Seigneur, il a cette autorité sur notre vie. Et il a le droit d'utiliser ses enfants comme il le veut pour sa gloire, pour son royaume. Et c'est-à-dire que même si nous prenons notre retraite ou nous sommes en vacances, nous ne sommes pas vraiment en vacances pour le Seigneur. Il peut nous utiliser même là-bas. En réalité, le repos qui nous est promis dans la Bible, c'est le repos éternel. C'est le repos en Jésus. C'est le repos d'abord des œuvres qu'on fait pour mériter la vie éternelle. Donc on met ça à côté pour se reposer dans l'œuvre complète, parfaite de Jésus-Christ. Deuxièmement, le repos éternel qui vient donc une fois que nous sommes avec Christ. Et le reste, mais le reste, c'est entre les mains du Seigneur. Et en ce temps-là, verset 2, « Moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » 3 semaines. 3 semaines de deuil et de prière. Certaines versions appellent ça un jeûne. Ça suscite le débat, qu'est-ce que c'est un jeûne? Normalement, un jeûne, c'est quand on se prive de la nourriture, voire aussi des liquides, pour pouvoir prier. On peut jeûner, si vous voulez, de certaines choses. Là, le pauvre, ben, il est assez âgé. Peut-être il doit être plus vigilant sur ce qu'il fait, mais il est dans le deuil. Et pourquoi le deuil? Certainement à cause de cette parole qui vient du Seigneur. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que le fait que nous sommes appelés à quelque chose, le fait même que nous sommes dans la volonté du Seigneur, ça ne veut pas dire que les choses vont être toujours joyeuses. Pourtant, nous avons la joie du Seigneur, la joie de notre salut. Sachant que nous sommes sauvés éternellement de la condamnation, ça c'est quand même un sujet de joie. Pourtant, il y a la tristesse sur terre. C'est ça justement qui différencie notre vie ici sur terre et le repos éternel plus tard. Ici, c'est quand même une vie où il y a des douleurs, il y a des moments difficiles. Et il prend le deuil sans doute à cause de cette parole. Un grand combat. Un grand combat. Mais même s'il a cette nouvelle, cette révélation un peu décevant, c'est intéressant qu'il prend le deuil. Il est honnête avec ses émotions. Il ne les cache pas. Il ne plaque pas le grand sourire sur son visage. Tout va bien. Alors je suis content. Mais il prend le deuil. Mais il prie le Seigneur. Le Seigneur lui donne 3 semaines. Et donc 3 semaines, il est fidèle à le faire pendant 3 semaines. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Cette vision est accablante. Des flammes de feu. On pense à ce verset, notre Dieu est un feu dévorant. Nous pensons aussi à cette voix comme des eaux, comme une multitude. Est-ce que vous êtes allé près des eaux vives, par exemple, où il y a une grande rivière et le fort son des eaux qui se battent contre les rochers, ou bien devant l'océan, et vous entendez les vagues qui se déferlent l'une après l'autre, et cet étonnant bruit. Alors, certains commentateurs disent que c'est une image de Jésus-Christ, là. Et pourquoi? Nous allons voir ça plus en détail dimanche. Mais pour aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est que ça correspond parfaitement avec une autre description de Jésus-Christ dans toute sa gloire en Apocalypse chapitre 1. D'autres commentateurs disent « Non, c'est un ange. » Et ils le disent par rapport à ce qui suit. Comment savoir si c'est Jésus ou pas? Tout repose sur la question « Qui parle après ?» Est-ce qu'il y a des voix qui parlent après? Est-ce que c'est comme on a vu dans d'autres passages où il y a plusieurs anges? On ne sait pas. Mais encore une fois, mettez-vous à la place de Daniel. Si vous avez vu ça, je pense que les autres détails seront un peu moindres. Ça va être difficile, justement. C'est tellement grand et même au-delà de ce qui est visible, même dans notre monde, même dans un monde aujourd'hui où, remarquez, nous avons les films hollywoodiens où on peut faire des grandes choses. Hein. Enfin, avec, si vous avez vu ces films récents hein, où avec beaucoup d'effets spéciaux, on peut faire des choses et absolument étonnantes. Mais là, c'est encore plus. Et il le voit en vrai. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Verset 7, « Moi, Daniel, je vis seul la vision. Je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. » Imaginons ça. Ils voient quelque chose, ils entendent quelque chose. Mais c'est tellement fort qu'ils partent en hâte. Mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est certainement la crainte du Seigneur aussi. Même nous, nous pouvons avoir ces sentiments dans notre esprit où c'est comme on sait que la présence du Seigneur est là, il y a cette paix. Ou bien, on peut être dans une situation et à cause du monde spirituel, il y a cette froide crainte qui envahissent et qui saisissent de peur. Et si nous pouvons aussi sentir ces choses dans les différentes situations, imaginons ce que ces hommes ont ressenti, sachant qu'ils étaient dans la présence sans le savoir, soit de Jésus-Christ, soit d'un ange. Un ange puissant. Avec ceci, on ajoute en Matthieu 28, lorsque Jésus fut ressuscité, il y avait un ange qui descendait du ciel, qui roulait la pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette garde romaine ? Ils tombaient, la Bible dit, et ils étaient comme morts. Les rencontres avec les anges, ça n'a rien à voir avec des beaux fresques baroquesques, hein, avec des... ces petites enfants tout doux et tout. Non, c'est c'est effrayant. Alors verset 9 plutôt, j'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. On peut imaginer qu'il n'a plus d'aucune force. Si les autres sont chassés juste par le sentiment et cette force spirituelle, lui, il le voit. Tournez avec moi en Ésaïe chapitre 6. C'est bien de revoir ce que Ésaïe le prophète a vu aussi lorsqu'il a vu le Seigneur. Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Oséas. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pins de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. La magnifique présence du Seigneur qui humilie les anges, qui fait que les anges, par humilité, se cachent dans sa présence. Ils crient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur, il n'y a pas d'autre mot. « Saint » qui veut dire « retirer », qui veut dire « désigner ». Donc pour le Seigneur, toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui crie. Alors, encore une fois, on se rappelle de ces voix comme des eaux. Et la maison se remplit de fumée. Que fait Ésaïe ? Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Daniel, il tombe. Il n'a plus aucune puissance en lui. Jean aussi, sur l'île de Patmos en Apocalypse, il tombe face contre terre. Et voici verset 10. Une main me toucha et me mit tout tremblant sur les genoux et les paumes de mes mains. Il fallait que le Seigneur le relève. Il faut dire que Daniel est un homme de bien. C'est pas un homme mesquin. Il n'est pas gros pécheur. Mais devant le Seigneur, il est tout défait. La réalité se voit à la lumière du Seigneur. Vous voyez, c'est simple de me comparer aux autres. Parce que dans mon orgueil, je peux toujours trouver quelqu'un de pire à l'extérieur que moi. Et ma chair prend plaisir à le faire. Comme ça, je me sens mieux. Oh, mais à la lumière du Seigneur, aucune place pour se cacher. Ses yeux qui nous regardent, tels que nous le sommes, on ne peut pas se cacher de ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut une intervention. On ne peut pas se tenir dans sa présence. Daniel, je suis persuadé, s'il continuait comme ça, il allait périr. Mais il fallait que Dieu intervienne, qu'un ange intervienne, qu'il le relève. Ça, c'est pourquoi, dans le livre de la loi, il y a tant de sacrifices. Pour que l'homme se rende compte. Lorsque cette bête innocente que c'était perde sa vie et son sang est répandu, pour que l'homme il réalise ce que c'est le péché et ce que ça fait. C'est pour ceci que Jésus-Christ et l'accomplissement de tout cela devait réellement être un homme pour réellement donner sa vie pour notre pardon. Pour que nous puissions être pardonnés. Et puisqu'on n'est pas encore là, il le touche, il le remet sur ses pieds. Alors, une dernière image concernant la sainteté de Jésus. Vous connaissez l'histoire où Jésus, il monte sur la montagne avec ses trois hommes, les trois glorieux, hein. Pierre, Jean et Jacques, toujours ces trois. Ils montent sur la montagne et ils commencent à prier. Et puis, Jésus, il change de l'aspect, il est transfiguré dans sa gloire. Il y a Moïse et il y a Élie qui s'entretient avec lui. Pierre, c'est comme il se réveille et puis il dit... C'est bien que nous soyons ici, bâtissons trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Et puis il y a cet nuage qui descend et le Père affirme son Fils en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. C'est-à-dire que Moïse et Élie, ils rendent témoignage de qui est Jésus. Vous voyez, Jésus, il est le seul qui a vécu sur cette terre de façon pure de pensée, parole, d'acte. Et s'il fut transfiguré, c'est parce que c'est comme la voile du monde physique fut retirée pour une seconde pour qu'on voit qui il est réellement. Jésus, par cette affirmation du Père, avait le droit, si vous voulez, à ce moment-là, puisqu'il fut transfiguré là devant eux, d'aller au ciel. Il a vécu une vie parfaite. Et si c'était Jésus à la place, donc, de Daniel, il pouvait se tenir. Mais puisque le Seigneur a choisi d'aller à la croix, le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et puis, il reprend sa forme terrestre, il descend la montagne, et vous connaissez le reste de l'histoire. Vous voyez, il n'y a que Jésus qui avait ce genre de sainteté pour être dans la présence de Dieu sans cette angoisse. Et puis, il me dit, Daniel, un bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tiens debout en me frémissant. C'est intéressant ça, ce qu'il dit, Daniel bien-aimé, je suis envoyé envers toi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous connaissez quelqu'un, une histoire dans le Nouveau Testament où l'ange Gabriel rencontre quelqu'un en disant « bien-aimé » et il a un message à leur dire? Marie, c'est Marie, effectivement. Tournez avec moi en Luc chapitre 1, verset 28. Cet ange Gabriel, et regardez ce qu'il dit. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » L'ange lui dit, « Sois sans crainte, verset 30, Mère Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Ou bien, « Tu es bien-aimée. » Alors, il est intéressant parce que ce mot en grec est un mot qui est utilisé deux fois dans le Nouveau Testament, ici, et une autre fois aussi. Et c'est en Éphésiens 1, verset 6. C'est cette même idée que l'ange dit à Daniel, bien-aimé, ici, à Marie, bien-aimée. Et on pourrait dire, ouais, ben, on parle de Daniel, on parle de Marie, c'est pas n'importe qui. Mais regardez ce deuxième usage dans le Nouveau Testament de ce mot. En Éphésiens 1, verset 5, « Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa bonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, Jésus-Christ. » Mais il parle à qui ? À nous tous qui sommes en Christ. Vous voyez, peut-être nous ne sommes pas à l'auteur d'un Daniel ou d'une Marie. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes dans le bien-aimé, en Jésus-Christ. Et alors, vous êtes aussi privilégié. Alors, ce verset, ce prophétie, ça nous parle dans ce sens-là, mais ça doit nous dire surtout ce que Dieu pense de nous. Qu'est-ce qu'il pense de nous? Ses pensées sont amour. Ah oui, mais il y a des gens qui disent, mais attends, si on commence à dire aux gens à quel point que Dieu les aime, ils seront plus libres de pécher et ils vont faire n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de liberté. Mais c'est faux, parce que qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne l'amour de Dieu envers les hommes? Nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. Et donc, plus que vous connaissez l'amour de Dieu, plus que vous allez l'aimer. Ça marche comme ça. Alors, vous pouvez mettre votre nom. Vous êtes aussi dans le bien-aimé. Et puisqu'il vous aime, il nous a donné cette explication. Comprends les paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tiens debout en me frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Alors quand est-ce que Dieu a envoyé son ange? Dès le premier jour, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que Daniel a reçu sa réponse? Après 3 semaines. Mais si Dieu a envoyé son ange dès le premier jour, et puis ça prend 3 semaines, est-ce que c'est parce que le trône de Dieu est tellement loin qu'il faut 3 semaines pour voyager? Non, bien sûr. Mais il est important de réaliser que Dieu, il nous entend. Il entend nos prières. Ça, c'est la première chose. Mais parfois, lorsque nous prions, nous avons le sentiment que, comme il dit dans la Bible, que les ciels sont comme du bronze et que on n'entend rien. Pour Daniel, ça fut 3 bonnes semaines de prière avant qu'il a eu une visite royale. Mais 3 semaines, ça fait longtemps, jour et nuit, être dans le deuil. Pourquoi est-ce que, si Dieu a entendu qu'il y avait 3 semaines, il y a plusieurs raisons pourquoi Dieu nous donne une réponse de silence ou un temps de silence dans nos vies. Parfois, ce qu'on prend pour le silence de Dieu, c'est parfois Dieu qui dit non. Alors, est-ce que c'est tragique quand Dieu dit non? Pas forcément, si on veut faire la volonté de Dieu. Si notre but est vraiment de faire la volonté de Dieu, un non vaut aussi bien qu'un oui. Parce qu'au moins, avec un non, ça élimine quelque chose. Puis, ça nous aide à voir mieux où il faut aller. Une autre chose, c'est que parfois, les réponses du Seigneur sont silencieuses à cause du péché. En Pierre, chapitre 3, lorsque Pierre il s'adresse aux maris, il leur exhorte d'être gentils, enfin, c'est moi qui paraphrase, verset 1 Pierre 3, 7. « Vous de même, maris, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles, honorez-les comme des co-héritiers de la grâce de vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Les hommes, si vous êtes méchants avec votre femme, c'est du péché et ça fait obstacle à vos prières, autrement dit. Mais ce n'est pas seulement les maris, c'est tout le monde. Et c'est comme Jésus a dit, si tu arrives devant l'autel et puis tu te rends compte que ton frère a quelque chose devant toi, faut mieux laisser ton sacrifice et pour arranger avec le frère. Le péché peut justement ralentir les réponses. C'est donc une bonne question de demander. Mais il y a une troisième raison aussi, c'est que Dieu est Père. Dieu, il veut passer du temps avec nous. Il veut que nous luttions. C'est un petit peu comme mes enfants. Souvent, il vient et je sais qu'il veut quelque chose. Et le second que je le leur donne, ils partent et c'est fait. Et donc, je les revois dans des heures prochaines. Alors, pour passer du temps avec eux, je prolonge la conversation. Et bon, Dieu, il n'est pas méchant, il ne nous taquine pas. Mais quand vous avez le silence, est-ce qu'il n'est pas possible que peut-être vous n'avez pas passé du temps avec votre Père Céleste depuis un certain moment? Et peut-être il veut reprendre contact. Comment vas-tu, fils? Comment vas-tu, ma fille? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Eh bien, il y a une quatrième raison. Et c'est la raison qui est avancée ici dans notre texte. Verset 13. « Le chef du royaume de Perse me résistait 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » quatrième réponse à cette question, c'est la guerre spirituelle. Ce chapitre 10 nous enseigne énormément sur le monde spirituel, sur le fait qu'il y a des anges qui se battent. Alors, à quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à un match de boxe, enfin, où il y a ces anges qui se battent? Est-ce que ça ressemble à des champs de bataille, enfin, dans les, qui sait? Qui sait réellement? Mais c'est suffisamment intense pour que celui-là soit retenu pendant 3 semaines. Alors, attendez une petite seconde. Celui-là fut retenu pendant 3 semaines. Et Daniel, de sa propre volonté, il priait et cherchait le Seigneur en deuil pendant combien de temps? 3 semaines. Ce n'est pas un hasard que la réponse a pris autant de temps. Oui, bien sûr, Dieu a le pouvoir d'arrêter ce roi de Perse, ange puissant, déchu, tout comme Jésus, à n'importe quel moment sur la terre, disait le mot et les mauvais esprits sortaient en volant. Oui, mais il a permis que Daniel reste 3 semaines en priant. Il voulait que Daniel, même dans sa vieillesse, lutte dans la prière. Qu'est-ce qu'il y a qui fait de Daniel un homme saint, un homme de Dieu? C'est que d'abord, lorsque Daniel reçoit une parole désagréable, il passe 3 semaines. Mais Dieu utilise ces 3 semaines dans les lieux célestes d'une façon inimaginable. Est-ce que Daniel aurait eu la même réponse si, après 2 semaines, il a arrêté? On ne sait pas. Parce que Daniel a achevé ces 3 semaines. Mais c'est quand même une pensée à considérer. On ne sait pas pourquoi. Souvent, on a à cœur de jeûner ou de prier. Il y a quelqu'un qui vient à l'esprit. Et c'est fort possible que c'est le Seigneur qui vous donne ce désir parce qu'il veut faire quelque chose au travers de vous et il veut faire quelque chose dont vous ne connaîtrez jamais ici-bas les réponses et les pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Pourquoi? Parce qu'il veut vous entraîner. On veut être des serviteurs de Dieu et on veut être bien et saint, mais souvent on ne veut pas faire tout l'effort. Passer les 3 semaines à prier dans le deuil. Mes chers amis, il n'y a pas de secret. Ceux qui ont une vie spirituelle dynamique, il faut beaucoup de travail. C'est comme les athlètes, ils mangent d'une manière spécifique, ils font beaucoup d'exercices. Il y a un peu de talent naturel, certes, mais il y a beaucoup d'efforts. Nous sommes couverts par la grâce de Dieu, mais nous avons le choix chaque jour et il y a tant à faire, tant à lire, tant à prier, tant de monde avec qui on doit partager, tant à faire dans l'Église et dans ce monde pour le nom de Christ. Alors je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir. Il y a encore une vision pour ces jours-là. Encore, c'est pour Daniel, c'est pour le peuple Israël maintenant, cette vision. Michel, vous connaissez certainement Place Saint-Michel. Selon ce texte, il faut dire que Michel, c'est l'ange gardien du peuple juif. Alors, mais c'est quand même une jolie statue à la place de Saint-Michel. Ça changerait, mais bibliquement parlant. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. Quelqu'un qui ressemblait au Fils des hommes touche à mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé. Je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. » Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. » Et comme il me parlait, je repris des forces et dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il est intéressant qu'il a besoin d'être fortifié même pour comprendre et entendre la parole de Dieu. En lui-même, il ne peut pas. Mais avec l'aide de cet ange, certainement envoyé par Dieu, évidemment envoyé par Dieu, il reçoit ce qui est nécessaire. Et rappelez-vous de nos disciples, les disciples de Jésus. Combien de temps est-ce que Jésus devait leur dire « Je vais à Jérusalem, je vais être crucifié et je vais ressusciter le troisième jour » Mais ils n'ont jamais compris parce qu'ils avaient d'autres choses en tête. Mais il y avait un moment spécifique où ils ont compris, enfin. Et ce n'était pas quand ils l'ont vu ou ils ont vu le tombeau vide. Luc 24, verset 45. Après la résurrection de Jésus, lorsque Jésus le rencontre, il mange devant eux, et verset 45, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour ?» Il fallait que le Christ ressuscité leur donne cette intelligence. Encore une intervention directe de Dieu. Jésus leur a averti de cela pourtant, comme il est bon, comme toujours, lorsqu'il a dit en Jean 16, verset 13, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aurait entendu et vous annoncera les choses à venir. » C'est-à-dire que Jésus nous a dit que si nous voulons comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin de son Saint-Esprit. Certes, nous sommes scellés du Saint-Esprit, mais il y a des moments où on a besoin qu'il nous remplisse encore plus pour comprendre des choses. Parfois, il y a des versets qui nous frappe, on ne comprend pas, mais ça frappe. C'est le moment où il faut prier. Prier avant de chercher d'autres commentaires. Mais prier que le Seigneur vous éclaire, parce qu'il peut utiliser un commentaire, il peut utiliser un pasteur, il peut utiliser beaucoup de choses. Comme il peut utiliser aussi la nature, il peut utiliser beaucoup de choses, mais on a besoin de cet éclaircissement spirituel. Le Saint-Esprit en nous, qui nous enseigne dans toute la vérité. Et regardez, c'est exactement ce que Daniel dit. Il faut que tu me touches, il faut que tu me donnes cet éclaircissement, sinon j'en peux pas. Et il le fait. Notez à quel point que Dieu est content de le faire. Fortifie-toi, sois sans crainte, Daniel. Je veux que tu comprennes. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici que le chef de Yavin viendra. Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. Encore. Votre chef, donc si c'est votre, ça parle du peuple juif, puisque Daniel, il est de naissance juive. Et enfin, ce que nous voyons, c'est qu'il y a cette guerre, mais puisque celui-ci est retenu, il se bat contre ce roi de Perse, ange déchu et puissant, nous voyons que celui-là qu'il parle, là, il ne peut pas être Jésus-Christ. puisque Jésus est puissant. Il n'a pas à se battre, lutter contre Satan pendant 3 semaines. Écoutez, Jésus, il est beaucoup plus puissant que ça. Mais celui-là, c'est peut-être un ange. Et alors, qui est ce roi de Perse? C'est un ange déchu. Ce que ça nous enseigne, c'est que il y a des dominations, des principautés, comme disent Éphésiens chapitre 6, comme disent à la fin de Romains chapitre 8. Satan s'organise et il place des anges dans des places. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, ça nous parle de façon que le diable est réel et qu'il est bien organisé, mais il est quand même contenu et même régi sous la volonté de Dieu. C'est Dieu donc qui gagne, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Mais ce qui est intéressant, là, on parle d'un esprit qui est au-dessus de tout la Perse, donc qui est l'Iran actuel. Et c'est quand même intéressant que de ce parti du monde, il y avait des choses ténébreuses, méchantes, du mal qui est sorti de cette partie du monde depuis longtemps. On voit toujours ces menaces et ces choses qui viennent toujours de ce pays d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que tout Iranien est sous l'emprise du roi de Perse non plus. Il ne faut pas faire un amalgame. Non, mais nous voyons qu'il y a ça. Le roi de Yavin, c'est le roi de Grèce. Mais avec tout ceci, est-ce que vous avez vu? Il veut l'expliquer à partir du livre de la vérité. Et c'est ça ce qui est plus fort. Ça donne l'impression que tout est déjà décrit. À cette époque, il n'y avait pas de grand Grèce. Enfin, ce Grèce merveilleux à l'époque où Daniel écrit ça. Tout est au futur. Et si justement tout est déjà dit et Dieu voit tout, même s'il laisse l'homme faire ses propres choix, mais Dieu qui connaît tout, est-ce que ça nous donne une certaine consolation, sachant que rien n'échappe à sa connaissance? Comme il est dit, Jésus, il n'y a même pas 2 moineaux qui tombent à terre sans la connaissance de mon Père. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête, connaît le commencement et la fin de vos jours, même avant que vous soyez nés, comme on a lu tout à l'heure en Éphésiens 1. Élu avant la fondation du monde, vous êtes bien aimé si vous êtes en Christ. Et ça, vous l'avez pour toujours puisque vous êtes en Christ. Et rien, pas de principauté, de domination, il n'y a rien qui puisse vous arracher de sa main. De sa main tout-puissante. Amen. Prions alors.